France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Ettore Majorana, un physicien a disparu. Le 25 mars 1938, ce jeune scientifique brillant embarque pour une traversée entre Naples et Palerme et se volatilise. Plus personne n'aura jamais de ses nouvelles. Une disparition mystérieuse qui fait grand bruit. Alors, suicide, enlèvement par les services secrets, passage à l'Allemagne nazie, nouvelle vie en Amérique du Sud, toutes les interprétations y passent. Parce que Majorana n'est pas n'importe qui. Tous ceux qui le côtoient reconnaissent son génie, supérieur, indiscutable. Au mystère de la disparition s'ajoute celui de l'homme, introverti, insondable, secret, comme incapable de vivre parmi ses semblables. Étrange personnage, étrange destin, étrange histoire, qui témoigne aussi de la vitalité de la recherche scientifique en Italie, un pôle d'excellence parmi tant d'autres dans ce pays. Notre invité aujourd'hui, Étienne Klein, physicien, directeur de recherche au CEA, auteur du livre intitulé « En cherchant Majorana, le physicien absolu », livre disponible en poche. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Héloïse Rambert. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Denante. Réalisation, Hélène Bizio.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter.
Âgé de 31 ans, taille 1m70, cheveux noirs, yeux sombres, une longue cicatrice sur le dos d'une main. Si quelqu'un sait quelque chose à son sujet, il est prié d'écrire au révérend père Marianici, via les Regina Margherita, 66, Rome.
Cette petite annonce occupe un filet de l'hebdomadaire La Domenica del Corriere, daté du 17 juillet 1938. Elle est accompagnée de la photo d'un jeune homme bien mis et d'une question. Qui l'a vu ? Le visage et la description sont ceux d'Ettore Majorana, professeur de physique à l'université de Naples, introuvable depuis presque 4 mois. Sa disparition laisse sa famille dans l'angoisse, bien sûr, et l'incompréhension, mais agite aussi le monde universitaire et les plus hautes sphères du pouvoir de l'Italie fasciste. Mais qui est donc cet Ettore Majorana ? Il voit le jour le 5 août 1906, à Catane, en Sicile. Il est le quatrième d'une famille de 5 enfants. Une grande famille sicilienne d'hommes politiques et de scientifiques. Le grand-père a été député et ministre à la fin du 19e siècle. Le père est un brillant ingénieur, responsable des télégraphes et télécommunications de la ville. L'année précédente, 1905, fut une année miraculeuse pour la physique. Albert Einstein énonçait sa théorie de la relativité, le fameux E égale MC2, et établissait l'existence des atomes, une notion qui, à l'époque, est loin de faire consensus. Ettore Majorana naît avec la physique moderne, en quelque sorte. Dès l'âge de 4 ans, il manifeste des dons hors du commun pour les maths. Lorsqu'il reçoit, dit-on, ses parents lui demandent de faire deux têtes, des multiplications à 3 chiffres ou d'extraire des racines carrées. Le petit garçon, sûrement gêné de jouer les singes savants, disparaît sous la table pour répondre. Mais toujours avec exactitude. Pour Dante Maior, son neveu, l'anecdote en dit long sur sa personnalité. Il en témoigne en 2016 dans le documentaire « Le mystère Ettore Majorana, un physicien absolu ».
À mon avis, l'aspect le plus intéressant de cette histoire, qui est peut-être vrai ou qui est peut-être une légende, je ne sais pas, c'est l'idée qu'il se cachait sous la table. Parce que ça révèle déjà une certaine timidité, le désir de ne pas s'exposer.
Mais il peut quand même désobéir. À 12 ans, il juge malin de prendre le volant de la voiture de son père, audace qu'il expédie directement dans un muret. C'est à cet accident d'ailleurs qu'il doit sa balafre à la main. Mais dans l'ensemble, sa jeunesse est marquée par le sérieux et la rigueur. Chez les Majorana, les enfants reçoivent l'instruction à la maison. Au début des années 20, le jeune garçon quitte sa Sicile natale. Papa et maman l'expédient chez les Jésuites, à Rome. Pourtant, aussi introverti qu'il soit, Majorana n'est pas un adolescent austère. À en croire ses camarades du lycée, elle peut même amuser la galerie. Après son bac, obtenu haut la main, il s'inscrit à la faculté d'ingénierie. Sur la photo de sa carte d'étudiant, son regard est lointain. Eduardo Amaldi, l'un de ses futurs collègues physiciens, le décrira ainsi. De loin, il paraissait fluet, avec une démarche timide, presque incertaine. De près, on remarquait ses cheveux très noirs, ses joues légèrement creuses, ses yeux très vifs. Dans l'ensemble, l'aspect d'un sarrasin. Ettore ne va quasiment jamais en cours, parce qu'il n'a pas besoin de se fouler pour réussir ses examens. Et il peut se montrer méprisant, faire ce qu'il juge besogneux. Monsieur Severi, son professeur de mathématiques, en fait les frais. Un jour qu'il bute sur un théorème, Majorana se dirige vers le tableau, efface ses calculs et, en quelques coups de craie, déroule la démonstration. Cette scène est évoquée dans le film italien « I ragazzi di via Panisperna »,« Les garçons de la rue Panisperna » de Gianni Amelio, tourné en 1988 et qui retrace le parcours d'Ettore Majorana.
Il suffit de changer le sinus en cosinus.
Non,
cosinus, phi, zéro.
Si quelqu'un vous traitait comme vous traitez les mathématiques, il irait tout droit en prison. Le résultat, c'est ça.
Il risultato è questo.
Sur les bancs de l'université, Majorana fait la connaissance d'un petit groupe de futurs génies, eux aussi impressionnés par ses capacités. Il se lie notamment avec Emilio Segre, qui décrochera le prix Nobel en 1959 pour la découverte de l'antiproton. Segre est à peu près tout ce que Majorana n'est pas. Joyeux, extraverti, très intéressé par les filles. Un matin de juin 1927, Segre des Boules, exalté dans l'amphithéâtre. La veille, il a assisté à la conférence d'un jeune physicien qui lui fait forte impression, Enrico Fermi. Aujourd'hui, en Italie, Fermi est considéré comme le plus grand physicien italien de tous les temps, derrière Galilée, rien que ça. Autant dire que tout le monde l'appelle dottore, mot réservé aux personnes remarquables ou simplement notables en Italie. Mais à l'époque, il n'est encore qu'un autodidacte de 25 ans, à peine nommé professeur de physique théorique à l'Université de Rome. Il est aussi jeune que la discipline pour laquelle il s'est pris de passion et qui est en train de changer le monde, la physique quantique. Une poignée de scientifiques avant-gardistes en Allemagne, en Autriche ou au Danemark travaillent à décrypter les lois de l'infiniment petit. À l'échelle microscopique, celle de la physique traditionnelle non plus court. Les particules n'ont plus ni comportement, ni localisation, ni texture, ni forme définie. Un monde nouveau, excitant, s'ouvre pour les amoureux des concepts révolutionnaires. Mais l'Italie a un léger train de retard. Orso Mario Corbino, détenteur de la première chaire de physique expérimentale du pays et ancien ministre, veut lui donner les moyens de revenir dans la course. Alors il confie les rênes de l'Institut de physique à Enrico Fermi et à son ami Franco Rassetti, un excellent physicien expérimental. Très vite, Fermi entend fédérer un petit groupe de jeunes physiciens capables de rivaliser avec les meilleurs laboratoires du monde dans le domaine de cette nouvelle physique. Emilio Segre veut en être. Dans une interview, il raconte, dans les années 80, à quel point à l'Institut tout est à faire à l'époque.
Corbino voleva rivitalizzare la fisica in Italia in qualche modo.
Corbino voulait revitaliser la physique en Italie en quelque sorte. Il s'est vite rendu compte qu'il avait en Fermi une personne extraordinairement douée, qui serait l'instrument idéal pour ressusciter la physique. Ces deux messieurs, Fermi et plus tard Rassetti, sont arrivés à Rome où ils n'ont pas trouvé grand-chose. Un institut, un peu d'espace, la bienveillance de Corbino, quelques appareils, pas grand-chose. J'étais très intéressé. C'est bien tombé. J'ai eu beaucoup de chance. Et ils ont eu aussi de la chance de me trouver.
Enrico Fermi ne veut pas simplement recruter les meilleurs. Il cherche à créer une dynamique de groupe, une famille. Sa dream team, en somme. Mais surtout, il s'agit de ne pas se tromper. Alors le processus de recrutement de Segre prend des mois. Des mois durant lesquels les membres de l'équipe se jaugent mutuellement, discutent physique au grand air, dans les montagnes des Abruzzes ou sur les plages d'Ostie. Quelques semaines après son intégration, Segret parle de Majorana à Fermi. Oui, il a un ami génial, il faut absolument qu'il le rencontre. En même temps, Segret essaie de convaincre Majorana de lâcher ses études d'ingénierie trop conventionnelles pour lui et de le rejoindre. « Viens faire de la physique quantique, lui dit-il. Ça correspond mieux à tes aspirations scientifiques. » C'est en novembre 1927 qu'a lieu la rencontre. Majorana se rend à l'Institut de physique situé rue Panisperna, pas loin du Colisée. Il trouve Enrico Fermi devant un tableau de chiffres en train de plancher sur un modèle statistique qui prendra ensuite son nom, le modèle de Thomas Fermi. Il est dessus depuis plusieurs jours. Majorana observe, demande quelques éclaircissements et s'en va, sans un mot. Le lendemain, il se présente de nouveau à l'Institut et file droit dans le bureau de Fermi. Et là, il demande à revoir le tableau qu'il a eu brièvement devant les yeux. Il sort alors un petit papier de sa poche et compare les résultats de Fermi avec les siens, obtenus en une seule nuit de travail. « C'est bon, lui dit-il le plus naturellement du monde. » Ce jour-là, c'est Fermi qui passe un examen. Leur tête-à-tête est dépeint dans cette autre scène du film « Les garçons de la rue Panisperna ».
C'est toi qui as trouvé cette solution ?
C'est le début qui est difficile. Le reste n'est qu'une question de chiffres.
De chiffres ? Combien de temps il t'a fallu ?
Il faut un peu de temps, c'est sûr. C'est pas facile, j'ai passé toute la nuit dessus.
Nous, on y travaille depuis une semaine, à trois. Qu'est-ce que tu fais ?
Des études d'ingénieur, disons, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup.
Dommage, tu as l'air intelligent.
Merci.
Tu as déjà pensé à faire de la physique, mais de la physique moderne ?
Majorana intègre alors l'équipe sur le champ, les garçons de la rue Panisperna. Une quinzaine de théoriciens passionnés, réunis autour de Fermi, ce pédagogue hors pair qui les familiarise avec la physique quantique et la théorie de la relativité. Mais le niveau d'abstraction déstabilise plus d'un. Il faut dire que ça va le haut, très haut. D'ailleurs, s'agit-il de science ou de foi ? Le Vatican en est fait à quelques encablures, et les garçons s'amusent à en recréer l'organigramme au sein du groupe. Fermi, c'est le pape. Enrico Persico, chargé de faire connaître la physique quantique dans toute l'Italie et de recruter des étudiants, est le cardinal responsable de la propagation de la foi. Quant à Majorana, sa rigueur et son esprit critique lui valent le surnom de grand inquisiteur. Torquemada de la physique. Bon, la comparaison n'est pas flatteuse. Disons plus justement qu'il est le seul à parler d'égal à égal avec le pape Fermi, qu'il remet souvent en question d'ailleurs. Mais Torre reste à part dans le groupe. Sa timidité, son caractère ombrageux, une certaine étrangeté aussi, le laisse comme détaché des autres et de lui-même. Peut-être que son génie l'isole, après tout. Il y a là les plus grands cerveaux de l'Italie, mais Majorana les surpasse tous. L'écrivain sicilien Leonardo Sciascia écrit dans son essai « La disparition de Majorana en 1975 », entre les garçons et lui, il y avait une profonde différence, dit-il. C'est que Fermi et les garçons cherchaient, alors que lui simplement trouvait. La science était un secret en dehors d'eux. Pour Majorana, c'était au contraire un secret à l'intérieur de lui-même. Et ses capacités de calcul ne sont qu'un moyen pour lui de créer des théories. Dans le tramway qui le mène à l'Institut, il lui arrive de trouver la solution à un problème difficile. Il sort alors son paquet de cigarettes, Majorana est un fumeur invétéré, et il y griffonne des formules. À peine arrivé, il expose ses idées à Fermi, qui applaudit. Giancarlo Vic, l'un des physiciens de l'équipe, se souvient que le professeur le mettait sur un piédestal.
Fermi avait une admiration inconditionnelle pour Majorana. Je l'ai entendu dire, Majorana appartient à cette rare catégorie. Parmi les physiciens, il y a les génies, il y a les personnes à la hauteur qui font du bon travail, il y a les crétins, etc. Et Majorana appartient, sans aucun doute, à la première catégorie. Je l'ai aussi entendu dire cette phrase, qui était une chose assez curieuse pour Fermi. Il disait « Majorana est plus intelligent que moi » ou quelque chose d'approchant, je ne me souviens pas de ces mots exacts. Il n'y avait pas de rivalité de la part de Fermi. Disons qu'il admettait sans discuter que Majorana était une personne supérieure.
Fermi exhorte Majorana à publier, mais il rechigne. Publier, pourquoi faire? Il se fiche des honneurs. Et puis, il est ultra-perfectionniste. Il trouve souvent ses travaux trop peu aboutis pour être partagé avec ses pairs. Les paquets de cigarettes remplis d'équations finissent souvent à la poubelle, au point qu'il se laisse doubler par d'autres. En 1932, il prend connaissance des récents travaux des époux Joliot-Curie. Stronzi, se serait-il exclamé devant témoins. Les cons, en substance. Pour Majorana, qui a vraiment une grande image de lui-même, jusqu'à l'arrogance, les chercheurs français n'ont pas compris ce qu'ils viennent de découvrir. Le neutron, une nouvelle particule élémentaire dans le noyau atomique, à une époque où seuls sont connus le proton et l'électron. En tout cas, Majorana réalise l'existence de la force nucléaire. Cette fois, Fermi le soupit presque d'écrire un article. Ou au moins d'aller à Paris, où doit se tenir une conférence en juillet de la même année. Même fin de non-recevoir. Il autorise Fermi à parler de sa théorie, certes, mais à condition de l'attribuer à un autre. Ce besoin de s'effacer, de disparaître, déjà. C'est finalement l'allemand Werner Heisenberg, l'un des pères de la mécanique quantique, qui publie peu après la théorie du neutron. Et là, Fermi est fou de rage. En 1933, il réussit tout de même à convaincre Majorana de partir à Leipzig pour travailler avec Heisenberg. Et de fait, de retour à Rome, 6 mois après, il ne sera plus le même homme.
C'è un po' di nebbia di febbraio. Fuori non c'è quasi nessuno. È un giorno triste, lungo e freddo, che tira avanti come può. Perché questa malinconia gira in città, mi gira intorno. Che cosa mi ha bagnato il viso? È pioggia o pianto? Non lo so, e sembra un giorno come un altro, il primo giorno senza te. È tutto come sempre e suona il disco che tu sai e brucia il fuoco nel camino, il cane dorme accanto a me, fuori fa freddo ed è febbraio, sono le 7, fa già scuro. Poco è l'ora di mangiare, ho messo il posto anche per te e sembra un giorno come un altro, il primo giorno senza te.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'étrange destin d'Ettore Majorana.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
En 1933, Majorana rejoint le groupe d'Heisenberg à Leipzig. Durant 6 mois, il fréquente les autres génies européens du moment. Et il semble d'abord s'épanouir. Chère maman, l'environnement à l'Institut de physique est très agréable, écrit-il dans une lettre. Je suis en très bon terme avec Heisenberg, avec Hund et avec tout le monde. J'écris quelques articles en allemand, le premier est déjà prêt. Avec Heisenberg, qui l'admire, l'amitié est réelle et la collaboration professionnelle fructueuse. Le premier article que mentionne Majorana, écrit avec lui, est un élément fondateur de la physique nucléaire. Mais en 1933, il n'y a pas que la physique qui connaît un tournant. En Allemagne, Hitler vient d'être nommé chancelier. Pour autant, la montée du nazisme ne semble pas inquiéter Majorana. Quand il y fait allusion, dans sa correspondance, ses prises de position sont déroutantes. Tantôt il décrit une situation politique catastrophique, tantôt il minimise les événements ou salue l'organisation allemande. Quand il n'adresse pas une lettre au relent antisémite à son ami Emilio Segret, qui est juif. Alors, de quel bois est fait Majorana? Que comprend-il à la marche du monde? Cette période de sa vie est impénétrable. Toujours est-il que son séjour se termine moins bien qu'il n'a commencé. Il ne fait plus allusion à Heisenberg, sa santé se dégrade, il souffre de gastrite et son humeur se rembrunit. Comme si en Allemagne, quelque chose l'avait brisé. Mais quoi? Il finit par rentrer à Rome le 5 août 1933, jour de son 27e anniversaire. Sa sœur, Maria, témoigne dans le documentaire « Ettore Majorana, un jour de mars » diffusé sur la RAI en 1990.
Tornando dalla Germania, lui era, ci sembrò un po' più.
Quand il est rentré d'Allemagne, il était, il nous a semblé un peu plus, voilà, un peu plus misanthrope. Il n'allait plus à l'institut ou très peu. À la maison, il restait debout la nuit, surtout pour étudier. La journée, il se retirait. Mais nous respections beaucoup cette manière d'être.
Le physicien s'enfonce dans ce qui ressemble à une dépression. Les années de 1934 à 1937 sont une ellipse. Il s'enferme chez lui, se néglige et renvoie les lettres d'un lapidaire rejeté, destinataire décédé. Il est pourtant sollicité par les meilleures facultés du monde, tant sa renommée est devenue grande. Mais il refuse toutes les propositions. Durant ses 3 années de repli, marquées par la mort de son père, il ne publie rien, ne participe à aucun colloque. Traverse-t-il une crise intime, existentielle ? Toutes les tentatives de ses camarades pour le ramener à la science et à la vie restent vaines. Majorana semble par ailleurs jeter un regard particulièrement dur sur sa discipline. La physique est sur un mauvais chemin, répète-t-il. Le jugement semble prophétique quand on pense à la suite des événements. 6 ans après, les scientifiques découvriront la fission de l'uranium. 12 ans après, la bombe atomique, fruit apocalyptique du projet Manhattan, tombera sur Hiroshima et Nagasaki. Science sans conscience, est-ce cela qui a ruiné l'âme de notre scientifique italien? Toujours est-il que le long passage à vide de Majorana finit par prendre fin. Et il se remet au travail. Il dépoussière de vieux manuscrits entamés et écrit ce qui sera son dernier plus célèbre article, « Théorie symétrique de l'électron et du positron ». Enchanté. Mais le papier est inaccessible pour les physiciens de l'époque. Pensez donc. Il s'oppose au modèle admis par la communauté scientifique et il prédit l'existence de particules qui seraient leurs propres antiparticules. En cela, Ettore est le scientifique parfait. Il fonctionne sur le retour d'expérience. Les vérités d'hier sont battues en brèche par de nouvelles découvertes. Du reste, son postulat est fascinant. Quand on pense qu'aujourd'hui, ces particules de Majorana pourraient constituer la matière noire, cette matière hypothétique et invisible qui composerait une grande partie de notre univers. Le sursaut académique de Majorana correspond à un virage dans sa vie professionnelle, car il obtient la même année une chaire de physique théorique à l'université de Naples, sous la direction d'Antonio Carelli. Gilda Sellatore, l'une de ses anciennes élèves, se souvient du professeur qu'il était.
Silenzioso.
Il se mettait derrière la chaire, sérieux et silencieux, et il commençait à parler. Parfois, il remplissait le tableau de calcul. Et sa main était si fluide que ses calculs semblaient être écrits à une vitesse que nous ne pouvions absolument pas suivre. Nous n'arrivions pas à le suivre. Mais Majorana en était conscient. Alors il se tournait vers nous. Il nous regardait avec intérêt, avec compréhension, presque comme s'il voulait nous inciter à le suivre.
Le choix de l'enseignement interroge, vu ses difficultés à communiquer. Mais Majorana semble y prendre un certain plaisir, même s'il officie devant un auditoire particulièrement clairsemé. Dans les années 30, en effet, étudier la physique est encore peu commun. Ses élèves se comptent littéralement sur les doigts de la main. Oui, ils sont 5, dont 4 filles. Une aberration statistique pour l'époque. À Naples, le physicien loge dans un petit hôtel sans prétention, écrit des lettres. Il semble s'installer dans sa nouvelle vie, plus solitaire que jamais. Mais en fait, et en vérité, il est déjà ailleurs. Peut-être l'a-t-il toujours été. Giuseppe Occhialini est physicien à Florence. Mais en janvier 1938, il est de passage pour quelques heures à Naples. Il en profite pour faire un saut à l'université et saluer Antonio Carelli, qui est l'un de ses amis. Mais il ne s'attend pas à rencontrer celui qui est alors son idole. Il raconte, en 1990, dans le documentaire Ettore Majorana, un jour de mars.
Sono arrivato in ritardo, verso le una, e ho incontrato il professor Carelli.
Je suis arrivé tard, vers 13h, et j'ai croisé le professeur Carelli qui était sur le point de sortir. Nous avons eu une conversation légère. Puis un jeune homme est arrivé, avec les yeux noirs, les cheveux noirs. Je l'ai pris pour un étudiant, quelqu'un de mon âge. Et à ce moment, on me l'a présenté, on m'a dit que c'était Majorana. J'ai sauté de joie. Il m'a dit, vous êtes arrivé à temps, parce que si vous aviez attendu quelques semaines, vous ne m'auriez pas rencontré.
Ettore Majorana ajoute encore plus énigmatique, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. C'est clair, pour lui le savoir-faire l'emporte sur le faire savoir. Une leçon. Le 25 mars 1938, un peu plus de 3 mois après la tenue de son cours inaugural, il embarque sur un paquebot poste à destination de sa Sicile natale. Le navire de la compagnie Tirrenia lève l'ancre à Naples à 22h30 et accoste à Palerme au petit matin à 5h30. Le lendemain, Antonio Carelli reçoit un télégramme énigmatique de son jeune professeur. « Ne t'inquiète pas, lettre suit. » Il reçoit effectivement dans la foulée un courrier posté avant son départ. Majorana y annonce sa propre disparition.
Cher Carelli, j'ai pris une décision qui était désormais inévitable. Il n'y a pas en elle la moindre trace d'égoïsme, mais je me rends compte des ennuis que ma disparition soudaine pourra causer à toi et aux étudiants. C'est pourquoi je te prie de me pardonner. Et surtout pour avoir déçu toute la confiance, la sincère amitié et la sympathie que tu m'as montrée au long de ces mois. Je te prie aussi de me rappeler au bon souvenir de ceux que j'ai appris à connaître et à apprécier dans ton institut. De tous, je conserverai un affectueux souvenir, au moins jusqu'à 11h ce soir, et si cela est possible, même après. Majorana.
Au moins jusqu'à 11h ce soir, et si cela est possible, même après. Qu'entend Majorana par ces mots? À peine Carelli essaie-t-il de décrypter cette première lettre, qu'il en reçoit une seconde, en express, le jour suivant. Celle-ci vient de Palerme. Majorana est donc arrivé à bon port. Il n'est plus question de disparaître, mais de rentrer et de tourner la page de l'enseignement. Cet homme est décidément difficile à suivre.
Cher Carelli, j'espère que mon télégramme et ma lettre te seront parvenus ensemble. La mère m'a refusé et je reviendrai demain à l'hôtel Bologna, en voyageant peut-être sur le même bateau que ce mot. J'ai cependant l'intention de renoncer à l'enseignement. Ne me prends pas pour une jeune fille d'Ibsen, car mon cas est différent. Je suis à ta disposition pour des détails ultérieurs.
Ettore Majorana est alors un peu comme le chat de Schrödinger dans l'expérience imaginaire de physique quantique, à la fois potentiellement mort et vivant. Quelques jours après, une troisième lettre, de quelques lignes, adressée à sa famille et retrouvée dans sa chambre d'hôtel, à Naples.
Je n'ai qu'un seul désir, que vous ne vous vêtiez pas de noir. Si vous voulez vous plier à l'usage, portez, mais pas plus de 3 jours durant, quelques signes de deuil. Ensuite, si vous le pouvez, gardez-moi dans votre cœur. Et pardonnez-moi.
Les mots ressemblent à ceux d'un suicidé, mais des éléments plaident en faveur de la disparition volontaire. Majorana a emporté son passeport et des économies. Autre élément troublant, le billet de retour entre Palerme et Naples a bien été utilisé. La compagnie tyrrhénienne a retrouvé le talon. Mais rien ne permet d'affirmer que le passager était bien le physicien. Le 30 mars, Antonio Carelli, déboussolé, alerte Enrico Fermi, alors en passe de recevoir son prix Nobel pour ses travaux de physique nucléaire. Fermi n'a pas gardé de lien avec Majorana, mais il est resté marqué par son génie. Il téléphone d'abord à tous ceux qu'il pense capables de lui donner des informations, avant de demander de l'aide à Mussolini en personne. Oui, les deux hommes se connaissent. Le Duce l'a nommé membre de l'Académie royale d'Italie 9 ans auparavant. Dans l'une des deux lettres qu'il adresse à Mussolini, Fermi écrit « Parmi tous les savants italiens et étrangers que j'ai eu l'occasion d'approcher, Majorana est celui qui m'a le plus frappé par la profondeur de son esprit. » Mais Fermi n'est pas ou plus dans les petits papiers du Duce. Le scientifique n'a pas de sympathie pour le fascisme. D'ailleurs, après avoir reçu son prix Nobel à Stockholm en 1939, il quittera l'Italie où les dévaluations raciales menacent sa femme d'origine juive. Il se réfugie à l'université Columbia, aux États-Unis. Mais Mussolini donne immédiatement suite à sa requête. Parce qu'il ne supporte pas que dans un pays dont le peuple est surveillé par un parti et une police omniprésente, une telle pointure puisse disparaître, sans laisser trace. « Je veux qu'on le trouve », écrit-il sur le dossier. Donc, exécution. Une note du ministère de l'Intérieur est diffusée à tous les services du pays.
Tout doit être mis en œuvre et rapidement pour retrouver Ettore Majorana avec la plus grande discrétion vis-à-vis de l'intéressé. Taille 1m68, visage allongé, grands yeux vifs, cheveux noirs, teint mat, par-dessus gris fer, chapeau marron foncé.
Mais rien n'y fait. Ni Mussolini qui tape du poing sur la table, ni les appels à témoins passés par la famille dans les journaux, ni les récompenses sonnantes et trébuchantes promises à qui aurait des informations. Où il y a bien cette infirmière, certaine de l'avoir vue dans le centre de Naples, peu après sa disparition. Ou ce supérieur d'une église, quasi sûr que Majorana s'est présenté pour demander l'hospitalité pour une retraite religieuse. Ce 25 mars 1938, Ettore Majorana s'est évaporé, laissant libre cours à toutes les interprétations. S'est-il suicidé entre Palerme et Naples, ou plus tard? A-t-il mis sa science au service des nazis après avoir été impressionné par leur régime? Ou s'est-il enfermé dans les murs d'un couvent? Cette dernière thèse est défendue par Leonardo Sciascia dans son essai « La disparition de Majorana », paru en feuilleton dans le journal La Stampa en 1975. Pour l'écrivain, Majorana aurait pressenti les terribles aboutissements des travaux qu'il avait entrepris sur l'atome, autrement dit l'autodestruction de l'humanité par la bombe atomique. Il aurait alors choisi de se retirer. Mais tout visionnaire qu'ait été Majorana, et aussi séduisante que soit cette piste, elle ne tient pas. Le phénomène de fission nucléaire à l'œuvre dans la bombe A ne sera découvert qu'en 1939. Reste qu'en Italie, la figure d'Ettore Majorana n'a rien perdu de son pouvoir de fascination et revient régulièrement sur le devant de la scène. Et en 2008, coup théâtre, un certain Francesco Fassani raconte devant les caméras de Chi l'ha visto, l'équivalent de notre perdu de vue, qu'il a connu Majorana au Venezuela dans les années 50. Photo à l'appui. Il se serait fait appeler Bini. En février 2015, la police scientifique établit sur simple analyse des visages que Majorana et Bini, tout sourire sur la photo, étaient la même personne. Ettore Majorana Jr., l'un des neveux du disparu, juge ses conclusions pathétiques. Et avouons-le, une telle issue serait vaguement décevante, tant elle ne serait pas à la hauteur du mythe. Ce qui fait dire à Enrico Fermi, à sa femme Laura, Ettore était trop intelligent. S'il décide de disparaître, personne ne pourra le retrouver. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui. Ettore Majorana, dont nous parlons avec notre invité Étienne Klein. Bonjour.
Bonjour.
Physicien, directeur de recherche au CEA, vous êtes l'auteur du livre intitulé « En cherchant Majorana, le physicien absolu ». Et nous sommes assez heureux de vous avoir dans ce studio. C'est pas tous les jours qu'on a un grand scientifique dans l'affaire sensible. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà du fait que notre personnage est un grand de la science, vous êtes intéressé à lui? C'est aussi son histoire, c'est sa personnalité?
Au départ, ce sont ses travaux scientifiques. En fait, quand j'avais 20 ans, j'étais étudiant et j'ai fait un stage d'été au CERN. Le CERN, c'est le grand laboratoire de physique des particules à Genève, qui est une sorte de petite ville dont les rues portent des noms de grands physiciens. Mmh. Il y a la rue Einstein, la rue Niels Bohr, la rue Enrico Fermi, la rue Démocrite, etc. Et un jour, je tombe sur un panneau indiquant le nom d'une rue qui est Ettore Majorana, une parenthèse qui s'ouvre, 1906, un tiret, 1938, un point d'interrogation, et la parenthèse qui se ferme. Je connaissais pas ce nom, et j'interroge un physicien italien qui était dans mon équipe, qui s'appelle Walter Scandale, qui me dit, c'était un physicien génial qui a travaillé avec Fermi, et un jour il a disparu. Ça m'a intrigué, à la bibliothèque, j'ai commencé à regarder les articles concernant Majorana, ou bien les articles de Majorana, et quelques années plus tard, j'ai donné une conférence à l'école normale supérieure, au laboratoire de physique théorique, expliquant les travaux de physique de Majorana. Et je m'intéressais pas trop à la disparition, mais l'affiche annonçant ma conférence est restée sur les murs de l'école normale pendant quelques semaines. Et un jour, je reçois un mail d'Ettore Majorana.
Lui-même,
et j'ai cru que voilà, il me contactait. Il devait avoir 105 ans à l'époque. Et puis en lisant le mail, je me rends compte que c'est un mail qui vient de son neveu, Ettore Majorana Junior, oui, que vous avez cité.
Absolument.
Qui est un neveu assez jeune, il a 60 ans.
Oui, il est assez jeune.
Mais ça veut dire que son père était quand même beaucoup plus jeune que le père de Majorana. Il me dit, voilà, j'ai vu que vous avez donné une conférence. Lui-même est physicien, mais travaille sur les ondes gravitationnelles. Il connaît mal les travaux de son oncle. Par contre, il connaît tout sur sa biographie. Il me dit, j'aimerais bien qu'on discute de ses travaux. On s'est rencontrés. Il m'a demandé d'expliquer les articles de physique sans faire allusion à la disparition. Mais en fait, il m'a parlé de la disparition pendant plus d'une heure. Et il m'a incité à écrire un livre. Et donc je suis allé en Italie, dans toutes les villes que Majorana a fréquentées. J'ai rencontré des membres de sa famille, des physiciens, etc. Et ça m'a amené à écrire ce livre. Et quand j'ai publié le livre, j'ai voulu retrouver la rue du CERN, qui porte son nom, et je ne l'ai pas retrouvée. Je suis allé voir la direction du centre, et j'ai demandé où est cette rue, qu'avez-vous fait? Ils m'ont dit qu'elle n'avait jamais existé. C'est-à-dire que j'ai appris l'existence d'un
physicien
qui a disparu grâce à un panneau qui n'a jamais existé. Ça commence à devenir intéressant. C'est que des histoires de disparition, finalement, oui. Majorana. Mais je pense que quand on était étudiant à l'époque, on avait des cours donnés par Victor Weisskopf, grand physicien, qui avait été directeur du CERN, qui avait fait sa thèse avec Wolfgang Pauli, qui avait rencontré Einstein. Et je pense que c'est lui qui nous a parlé de Majorana, puisqu'ils se sont rencontrés en 1933. Lorsque Majorana était à Leipzig, vous avez rappelé dans quelles circonstances, il a fait un petit voyage à Copenhague pour rencontrer Niels Bohr, qui avait autour de lui toutes sortes de jeunes physiciens qu'il essaie de lancer dans la physique quantique. Et on sait que Majorana et Weisskopf se sont parlé. Et je pense que c'est là que j'ai entendu parler de Majorana pour la première fois et que j'ai fabriqué finalement un faux souvenir.
C'est une anecdote, mais ce panneau de rue avec son nom, vous ne l'avez pas inventé, vous l'avez vu?
Non, je l'ai inventé, c'est un faux souvenir. Il n'a jamais existé. Mais je pense qu'il existera un jour, parce que, peut-être qu'on en reparlera, mais vous l'avez dit d'ailleurs, il y a des particules de Majorana prédites par lui qui pourraient un jour être découvertes et résoudre des problèmes de cosmologie contemporaine. Et si c'est le cas, j'espère qu'il aura sa rue.
Un vrai panneau.
Ouais.
Bon. Alors justement, qu'est-ce qu'il représente d'un point de vue professionnel et scientifique? C'est quoi son grand apport?
Il fait des découvertes prémonitoires. Il a écrit plusieurs articles en 1932. J'ai pas le temps d'expliquer, mais il y en a un quand même très important. Il montre que quand un atome est dans un champ magnétique qui varie, qui est oscillant, alors les raies spectrales émises par cet atome sont modifiées et calculent la forme. Et puis un peu plus tard, il écrit un article que personne ne va comprendre à l'époque, qui sera vraiment redécouvert 30 ans plus tard. C'est une sorte de Belle au bois dormant, qui sera réveillé dans les années 60. Il écrit une équation quantique et relativiste, comme on dit, c'est-à-dire qui est capable de décrire des particules qui vont très vite, quel que soit leur spin. Le spin, c'est une sorte de petit moment magnétique des particules élémentaires qui peut prendre toutes sortes de valeurs, entières ou demi-entières, 1,5, 1, 3,5, 2, etc. Il écrit une équation universelle en inventant une nouvelle façon de représenter les groupes en mathématiques. Enfin, c'est un travail extraordinaire. Mais le truc le plus impressionnant, c'est un travail qu'il a commencé en 1933, quand il était à Leipzig, avec Heisenberg, et qui va reprendre en 1938, vous l'avez, 1937 plus exactement, quand on lui dit « il y a un poste de prof qui s'ouvre à Palerme, tu devrais candidater, mais il faut que tu publies ». Il a retravaillé ce papier, l'a publié, et ça c'est un article extraordinaire, c'est ce que vous avez cité le titre, « Théorie symétrique de l'électron et du positron ».
Oui, j'ai dit « enchanté » parce que incroyable. Je ne comprenais pas la phrase.
En fait, c'est assez simple, en 1932, Paul Dirac, un Britannique, écrit une équation qui permet de décrire en toutes circonstances le comportement d'un électron, et ça l'amène à prédire l'existence des antiparticules. Et il change l'image qu'on se fait du vide. Pour lui, le vide, c'est un parking souterrain qui est complet. Oui. Donc le vide, c'est pas l'absence de toute chose, bien c'est si. Un parking souterrain. Dedans, il y a des places pour des voitures, et toutes les voitures sont occupées. Sont occupées, en l'occurrence, par des électrons.
D'accord.
Et ce souterrain, ce parking souterrain, on peut pas l'observer. Il est caché. Par contre, si une voiture qui est dans le parking sort, on la voit sortir. Et en même temps qu'elle sort, il y a une place qui se libère dans le parking.
Et forcément.
Et bien cette place qui se libère, c'est l'antiparticule de l'électron.
D'accord.
Donc quand un électron apparaît, c'est qu'il y a un positron, l'antiparticule de l'électron, qui apparaît aussi.
Ah, c'est ça le positron.
D'accord. Et ce parking, c'est ce qu'on appelle la mère de Dirac. Et Majorana déteste cette idée.
Pourquoi ?
Et d'ailleurs, l'article commence par « Je refuse la mère de Dirac ».
Et pourquoi ? C'est...
Parce que ça n'obéit pas au principe de symétrie auquel il tient. Il a des objections théoriques, si vous voulez.
D'accord.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans une des lettres qu'il écrit à Carelli quand il arrive à Palerme, il écrit « La mère m'a refusé ». Moi, je n'ai jamais compris s'il y avait une relation entre la phrase de son article « Je refuse la mère de Dirac
ouais. »
et puis la phrase de sa lettre « La mère,
mère
m'a refusé.
Ouais.
La mère m'a refusé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'a pas voulu que je me suicide ? Je ne sais pas. Bon, bref. Et lui va trouver une nouvelle façon de résoudre ce problème qui va permettre de prédire l'existence de particules qui sont leurs propres antiparticules. Et ça, c'est le travail le plus révolutionnaire qui pourrait résoudre aujourd'hui un problème qui, à l'époque de Majorana, ne se posait pas, qui est le problème de la matière noire. Mmh. On sait que dans l'univers, il y a plus de matière que celle qu'on peut voir. Elle agit gravitationnellement, mais elle n'émet pas de lumière. Et un des candidats pour constituer cette matière noire, ce sont des particules de Majorana. Et puis il y a une particule qu'on connaît bien, le neutrino, qui pourrait être un candidat pour avoir ce statut, c'est-à-dire qui pourrait être identique à sa propre antiparticule. Mais on n'en sait rien, il y a beaucoup de recherches qui sont menées. Mais
on voit à quel point ces travaux font autorité.
Oh oui, moi je pense que Majorana, il était lui-même une particule de Majorana. C'est-à-dire qu'il était sa propre négativité, il était sa propre antiparticule.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Étienne Klein, on va parler de Majorana côté disparition. On a évoqué quelques hypothèses, notamment celle qui voudrait qu'il se soit retiré du monde, car il avait pressenti l'avènement de la bombe atomique. C'est le fameux thème de la science sans conscience, et qu'il aurait eu mauvaise conscience, pour le coup.
Si ça avait été le cas, il aurait donné l'alerte, plutôt.
Ben oui.
En fait, je pense que c'est impossible, tout le monde est d'accord, d'ailleurs, pour dire que c'est impossible. La découverte de la fission nucléaire de l'uranium s'est faite en décembre 1938, et même si on peut imaginer que Majorana l'ait prédite, de même qu'il avait compris que les Joliot-Curie avaient découvert le neutron, alors que les autres ne l'avaient pas saisi, pour faire une bombe atomique, il faut aussi qu'il y ait une réaction en chaîne possible. Et ça n'est vrai que si la fission s'accompagne de l'émission d'autres neutrons qui vont percuter d'autres noyaux, etc. Et ça, aucun argument théorique ne permettait de le prévoir à l'époque. Non, moi je pense que c'était plutôt un conflit personnel, intime. Il avait du mal à communiquer avec autrui, ce qui n'a pas toujours été le cas dans sa vie. Quand il était étudiant, on le décrivait comme joyeux.
Oui, c'est ce qu'on disait.
Intéressé par la gente féminine, mais faisant rigoler ses copains. Mais après son retour d'Allemagne, comme vous l'avez dit, en 1933, il a une autre personnalité. Et je pense que quand il est à Naples, il a du mal à se faire des amis. Et puis, il est tellement en avance qu'il ne trouve pas d'interlocuteur à sa hauteur.
Il a des problèmes aussi en termes de communication. Il n'aime pas le faire savoir.
Il n'aime pas la publicité. Il trouve que publier, c'est méprisable. Donc, dans le système d'aujourd'hui, il trouverait difficilement sa place. Il a publié au total 7 articles, dont un extraordinaire sur le rapport entre la physique et les sciences sociales. qui a été publié après sa mort. Mmh. Il essaie de voir si la thermodynamique et les lois statistiques permettent d'aider les sociologues à comprendre les sociétés. C'est un article incroyable. Mais non, il n'aime pas la publicité, il n'aime pas... Il est à la fois très content de lui, mais n'aime pas se mettre en avant. Sa doctrine ou son dicton favori, ça pourrait être « Je suis modeste et j'en suis fier ».
Ils le sont encore. Hein. Vous avez rencontré plusieurs personnes en Italie, vous avez été bien reçu. Est-ce que vous avez senti que c'était polémique, sulfureux, une affaire sensible ou au contraire...
Affaire sensible en Italie. J'ai rencontré tous ses neveux, qui sont pas d'accord sur les hypothèses qu'on peut faire à propos de la disparition. Mmh. Dante Majorana, qu'on a entendu, mais aussi Ettore Majorana Junior, qu'on n'a pas entendu, mais qui lui est très agacé par toutes ces thèses diverses qui viennent polluer la mémoire de son oncle. Et c'est lui qui m'a demandé de faire une enquête. Qu'un Français s'intéresse à un cas qui divise l'Italie, avec un regard, disons, plus, non pas plus objectif, mais en tout cas moins débarrassé des passions nationales. Majorana, il est connu de tout le monde en Italie. Vous pouvez parler de lui à un pizzaiolo dans les pizzerias, les serveurs, tout le monde le connaît. Il a des rues, il a des collèges qui portent son nom. En France, il est moins connu, mais il mériterait de l'être.
Il sera peut-être un peu plus connu après cette émission. Est-ce que le côté mystérieux, la disparition, a pris le pas sur son apport scientifique? Est-ce que ça a un peu pollué tout ça?
Il a été masqué par sa disparition, on pourrait dire. En tout cas, ses œuvres théoriques sont difficiles d'accès. C'est très mathématique. C'est un physicien qui a compris avant tout le monde qu'il faut utiliser pour faire de la physique convenablement des théories mathématiques qui s'appuient sur des principes d'invariance très profonds, ce qu'on appelle des symétries. Et à l'époque, les physiciens étaient mal formés à tout cela. D'où le fait que certains de ses travaux n'ont été compris que dans les années 60. Mmh. L'article sur les particules de spin quelconque, il y a des physiciens comme Wigner qui ont retrouvé les mêmes résultats bien après, dans les années 60, et qui ont découvert après coup que Majorana avait déjà fait le travail sans qu'ils en aient pris conscience. Et je pense qu'il était, dans sa façon de raisonner, incommensurable avec les autres, ce qui a créé ces problèmes de communication.
Ouais. Et vous, dans votre formation de physicien, on vous a enseigné Majorana?
Non.
Pourquoi?
On me l'a enseigné, non. Son nom est associé à beaucoup de choses. Il y a le groupe de Majorana, l'équation de Majorana, le tenseur de Majorana, etc. L'effet Majorana-Brossel, ça. Donc je connaissais son nom, mais je ne connaissais pas en détail ses travaux. C'est un personnage fantomatique de la physique, et j'ai voulu, par ce livre, lui donner une réalité historique et puis un corps aussi.
Est-ce que l'Italie est un pôle important? C'est la deuxième puissance industrielle d'Europe. Est-ce que c'est un pôle important, une puissance scientifique, l'Italie?
Aujourd'hui ou à l'époque?
Oui, aujourd'hui.
Oui, il y a beaucoup de physiciens italiens qui travaillent au CERN, qui s'exilent en fait, comme beaucoup de physiciens en général. Je ne saurais pas donner les chiffres exacts, mais en tout cas, dans la période que vous avez évoquée, la période, disons, 1928-1938, l'Italie est à la pointe, grâce à Fermi et à tous ceux qu'il a recrutés autour de lui. Cette petite équipe de la Via Panisperna, il y a un autre pôle en Allemagne, avec Munich, Leipzig, Copenhague avec Bohr, la France un tout petit peu avec Louis de Broglie, l'Angleterre avec des gens comme Dirac. Mais à l'époque, la physique nucléaire, elle est née en Italie, en fait.
Ah oui. Bon, une toute dernière question qui est pas tout à fait dans le sujet, mais il nous reste 30 secondes, vous pouvez presque répondre par oui ou non. On utilise la fission nucléaire aujourd'hui, on voudrait utiliser la fusion nucléaire. Il y a un laboratoire qui est à Cadarache, c'est ça, on y arrivera quand, la fusion nucléaire? On a dit 2050.
On sait faire la fusion depuis longtemps. Par contre, il faut en faire en récoltant plus d'énergie que celle qu'on a dépensée pour la créer.
Bon.
Dans des conditions sûres, etc.
Très bien. Merci infiniment, Étienne Klein. Merci, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Ettore Majorana, un physicien disparu. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Fischeux.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.